contrôlé partout, tout le temps, je crois que c'est un des grands fantasmes de notre époque, mais évidemment, c'est un fantasme.
Ouais, et justement, peut-être que cette utopie de vouloir anéantir le hasard, ça nous rend peut-être le monde encore plus incompréhensible et plus hostile, parce que finalement, on se rend bien compte aujourd'hui que le hasard et ses mauvais tours, ça remplit tous les jours nos journaux parlés, nos JT, nos médias. Il y a quelque chose de terrifiant là-dedans.
Mais je pense que c'est terrifiant si on n'accepte pas une part de hasard dans l'existence. Sinon, bien évidemment, il y a des choses qui sont terrifiantes parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles sont surprenantes, parce qu'elles font mal. Les morts innocents, les massacres, la folie, des uns et des autres, ça, ce sont des choses qui évidemment heurtent notre sensibilité et notre raison aussi. Mais elles font partie du réel. Un réel où il n'y aurait pas de hasard, c'est un totalitarisme effroyable, qui serait peut-être un totalitarisme soft, radieux, content de soi et tout ça, mais qui serait finalement une sorte de contrôle absolu de l'existence, de la nature, des espèces. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir envie de vivre dans un monde sans
Nous non.
hasard.
La première, entrée sans frapper.
Roger Paul Droit est notre invité, chroniqueur, journaliste, philosophe. La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux. C'est paru chez Flammarion, Xavier.
Oui, c'est un livre qui dénonce d'une certaine manière une forme de discours ambiant sur la place que devrait occuper la philosophie dans la quête du bonheur. Et alors, vous êtes arrivé aussi à un constat assez étonnant là-dedans, Roger Paul Droit, en matière philosophique. C'est que dans le discours philosophique mainstream, il y a finalement assez peu de place laissée au doute. Et qu'il y a toute une série de convictions énoncées, comme par exemple que le bonheur est à construire, qu'il dépend de nous et seulement de nous. C'est étonnant, ça, quand même, qu'il y ait si peu de place au doute. En tout cas, c'est votre avis.
Ben oui, et ça m'étonne d'autant plus que j'ai toujours pensé, je ne suis pas le seul, la tradition de la philosophie ne cesse de le répéter, que douter, c'est le début de la philosophie, c'est-à-dire l'étonnement, la mise en cause. Là, on nous répète. Tous les hommes veulent être heureux, ça se paraît évident, mais est-ce que cette évidence ne doit pas être questionnée? Quand on la questionne, on s'aperçoit par exemple que la civilisation chinoise n'a pas construit, c'est ce qu'explique le philosophe et sinologue François Julien, une conception du bonheur comme but semblable à celle de l'Europe, pas du tout, donc c'est pas universel. Voilà, il y a des évidences comme ça qui sont non questionnées et qui ressemblent plutôt à des dogmes, et même cette idée centrale que la philosophie doit servir au bonheur, elle est encore une fois massive dans l'Antiquité, elle a été oubliée, elle a été critiquée de façon, à mon avis, radicale au temps des Lumières par Kant, qui explique que le bonheur, c'est un idéal de l'imagination. C'est-à-dire que chacun va évidemment s'en construire sa représentation personnelle. Ça ne sera pas la même chose pour vous, pour moi et pour d'autres personnes. On a chacun son image, précise ou floue, peu importe, mais on a chacun son image du bonheur. Donc il n'y a pas de concept, il n'y a pas de savoir véritable. Et du coup, eh bien, un registre, un domaine comme le bonheur dont il n'y a pas de concept ni de savoir, qu'est-ce que la philosophie a à en dire? Rien. Elle peut tout simplement étudier cette question, le truc, mais elle n'a pas à le construire, à le fournir. Ça a été radicalement affirmé depuis 200 ans. Nietzsche ou Freud ou Schopenhauer aussi ont montré qu'il y avait une grande part d'illusion dans cette idée du bonheur que nous entretenons, comme si elle était à portée de main. Et tout ça se trouve finalement mis sous le tapis ou balayé. Et puis surtout, dernier point, il me semble qu'il y a d'autres valeurs à d'autres époques ou même à la nôtre que le bonheur bien-être. Des gens sont morts pour la justice ou pour la liberté ou pour la dignité, et peuvent parfaitement décider de sacrifier leur bien-être ou leur bonheur personnel pour des idéaux de solidarité, de justice, de dignité humaine, de liberté, qui peuvent paraître bien plus important du point de vue éthique ou politique que le bien-être personnel. Donc il y a là quelque chose aussi qui doit être remis en perspective et remis en cause et en doute. Voilà.
Ça veut dire que la conception du bonheur telle qu'on essaye de nous la vendre, entre guillemets, aujourd'hui, serait incompatible avec les questions éthiques que vous venez d'évoquer ?
C'est pas incompatible, mais je crois que c'est moins la conception du bonheur que la conception de la philosophie qui m'intéresse. C'est-à-dire que je ne crois pas que la philosophie doive contribuer à ce bonheur plus ou moins anesthésié ou qui consiste finalement à maintenir sa sérénité en retrait de l'actualité. Je crois plus à une forme d'intranquillité, si vous voulez, de la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'elle favorise l'angoisse ou qu'elle inquiète, mais intranquillité au sens où le travail, pour moi, des philosophes, c'est d'abord d'essayer de comprendre quelque chose à ce monde opaque, complexe, par moments inquiétant, dans lequel nous baignons, et plutôt que le bonheur-bien-être, il me semble philosophiquement important aujourd'hui de comprendre le réchauffement climatique ou le terrorisme ou les manipulations du génome humain ou les questions du clonage, ou etc. etc. Enfin bon, la liste, chacun peut la voir et la connaître.
Alors, bon. Vous parlez de génome, de clonage, etc. Il y a une phrase d'Aldous Huxley que vous épinglez en ouverture d'un de vos chapitres, extrait du Meilleur des mondes. Elle dit cette phrase: c'est là qu'est le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce qu'on est obligé de faire. Alors évidemment, le roman nous plonge dans une espèce de société totalitariste effrayante, mais Roger Paul Droit, vous trouvez quelque part que dans le discours philosophique mainstream aujourd'hui, on retrouve un peu de ça, de devoir accepter les choses comme elles sont et de s'y faire?
Je pense que oui, finalement, il y a une sorte, si vous voulez, de... Alors c'est ce que j'appelle un totalitarisme soft, il ne s'agit pas de contraindre qui que ce soit à être heureux, mais de comme ça, d'envelopper les choses. Et je pense qu'il y a dans, pas simplement la philosophie ou certains aspects de la philosophie, mais ce que vous dites, que vous appelez mainstream, mais aussi dans d'autres domaines. J'ai écrit avec Monique Atlan, alors petite page de publicité, un livre qui s'intitule « Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies », où on est allé voir une cinquantaine de grands chercheurs mondiaux en génétique, en numérique, etc., pour essayer de comprendre, aussi bien en Allemagne qu'en Californie ou à Londres, ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires et comme tout ça converge vers une autre vision de l'humain, ou l'idée de faire une humanité 2.0, vous savez, les transhumanistes qui veulent aujourd'hui cloner notre conscience dans des disques durs. Enfin, y a là quelque chose qui dessine, si vous voulez, tout un monde dans lequel il y a, à mon avis, des responsabilités à réassumer, des démarches citoyennes à reconstituer, et ne pas s'imaginer que parce que le processus ou les processus sont enclenchés, tout ce qui peut être fait sera fait. Je crois que nous avons aussi une responsabilité à la fois d'intellectuel et de citoyen, d'individu.
La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux, ça sort chez Flammarion, c'est signé notre invité Roger Paul Droit. Merci Roger Paul Droit d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à vous.